Alors le radon, c'est un gaz qui sort de la croûte terrestre et donc qui s'en échappe. Hein. Par exemple, pour déceler certaines arrivées de tremblements de terre, on décèle par exemple la sortie du gaz radon. Voilà. Alors le gaz radon, il fait partie de la chaîne de l'uranium. C'est un des fils de l'uranium. D'un certain uranium, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, ça fait partie d'une certaine famille radioactive. À un moment, on arrive au radium-226, et qui est contenu en totalité dans les boues radioactives qui traînent dans les mines. Et puis ensuite, il y a encore des fils, il y a des descendants, et dans ces descendants, il y a le radon-222, mais il y en a d'autres radons, hein, 220 et bien d'autres. Et puis encore, dans les fils, il y a d'autres descendants radioactifs. Il y a le polonium, il y a le bismuth, il y a le plomb radioactif. Et après, ensuite, dans la chaîne de l'uranium, on arrive à un stade final où on a un élément qui est stable, qui n'est plus radioactif. Voilà. Voilà un peu résumé le problème. Et donc, à la fois dans les boues qui ont été mélangées au minerai et à la fois dans la gangue minérale qui a été cassée pour l'exploitation ou pour faire une maison, on a libéré tous ces éléments radioactifs qui sont des descendants d'uranium, du radium de 226 et du radon. Avant l'exploitation d'uranium, les trois quarts de la radioactivité étaient contenus dans la gangue minérale, donc il en restait un quart qui sortait. Et à partir du moment où il y a l'exploitation d'uranium, c'est l'inverse. Les trois quarts sortent et sont libérés dans l'atmosphère et partent dans les eaux. Et on retrouve ça aussi dans les maisons, à partir du moment où ça circule dans les tuyaux, dans l'eau des tuyauteries, et dans les murs, puisque ça a été intégré. Et puis lorsqu'on a construit la maison, qu'on a fait un trou, on a libéré aussi de la radioactivité. Voilà. Alors si en plus la maison a été faite avec du granit, du minerai, des roches qui ont été prises ici ou là, ça fait que ça augmente la radioactivité. Alors l'industriel Kojima a pris ce qui l'intéressait économiquement pour ensuite enrichir ce produit-là, ce qu'on appelle, c'est une poudre jaune, ça s'appelle le yellow cake, et ensuite c'est envoyé pour être enrichi, et on retrouve ça dans les cœurs des centrales par exemple. Hein. Et donc ce qui reste sur le carreau des mines, eh ben, c'est des cailloux, c'est des montagnes que l'industriel Kojima appelle gentiment des stériles. Mais, sanitairement parlant, ce ne sont pas des stériles. Il reste les trois quarts de la radioactivité. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? Par temps sec, ça monte, ça passe dans les nuages. Ensuite, par temps de pluie, ça retombe dans les jardins. Et lorsqu'on voit, par exemple, arriver le sable du Sahara, on peut très bien imaginer que les particules radioactives qui sont montées dans les nuages font aussi des centaines de kilomètres. Et un exemple qui est frappant, c'est que lorsqu'on avait rencontré des Indiens du Saskatchewan, Canada, là où il y a aussi des exploitations très importantes d'uranium avec Kojima, lorsqu'on les avait baladés ici sur les mines, ils nous disaient, ben nous, avec Kojima, on discute du nombre d'heures que mettra le radon pour arriver 100 km plus loin. Quoi. Alors qu'ici, en Limousin, Kojima a toujours dit, ben, à 10 mètres, il n'y a pas de problème. Quoi. Voilà. Alors ça rejoint aussi les problèmes des mines parce que donc ça part dans l'air, ça part dans le sol. Et surtout un problème majeur à venir, c'est le problème des eaux. Actuellement, il y a des mines qui ont été laissées en l'état avec tout un tas de galeries. Kojima a laissé remonter les eaux puisqu'il ne repompe pas les eaux. Il y a des boues radioactives qui sont à l'intérieur de ces galeries. Et comme on est sur des sites faillés, par définition, le site granitique est un site faillé, on retrouve ça, et on a trouvé ça à travers, par exemple, des études de la CRIRAD. 70 km en aval des exploitations minières, dans les alluvions des cours d'eau, on a trouvé des éléments radioactifs qui devraient être confinés dans des sites comme des sites de l'ANDRA. Le problème, c'est quand on pose la question par écrit à l'ANDRA, ce que j'avais fait, qu'on demande que ces déchets-là soient pris et stockés, eh ben les directeurs de l'ANDRA nous répondent on ne peut pas les prendre parce qu'on ne sait pas les gérer, tout simplement parce qu'il y a, par exemple, en totalité, le radium de 226. en totalité. Et l'industriel le dit en public, dans les réunions, pas de problème, voilà. Alors l'embêtant, c'est que ça ne peut pas être mis à Soulaine, par exemple, puisque ça concerne Soulaine des déchets, entre guillemets, faiblement radioactifs. Or là, le radium 226, dans la classification officielle de l'administration, bien que ça soit une classification très vague, on a quand même la définition du radium 226 et il est classé tout simplement très radiotoxique, c'est-à-dire très dangereux, c'est-à-dire très radioactif, comme le plutonium, par exemple. Les grosses études ont été faites lorsque les mines ont vraiment tourné en France et à l'étranger. Alors l'entreprise Cogema, elle, dans les années 50, a commencé à faire des études sur l'état de santé des mineurs et puis a fait courir ses études jusqu'à il y a pas très longtemps, les années 90, 85. Et puis à cette époque-là, la Cogema n'a plus fait paraître ses études. Mais déjà à cette époque-là, ils avaient fait un peu en quelque sorte sauter les plombs puisqu'il y avait une augmentation exponentielle des maladies chez les mineurs. Alors, maladies respiratoires, les cancers du poumon, bien évidemment, les problèmes dermatologiques, les problèmes sanguins, bon, etc. Donc, ils avaient arrêté cette étude tout simplement parce qu'ils s'étaient rendu compte que l'augmentation était très importante et ne correspondait pas, en fait, à ce qui était dit officiellement sur le plan de la communication, quoi. Donc après, ils ont dit, ben, nos études sont arrêtées. En fait, elles courent toujours. Hein. Et donc c'est intéressant parce qu'ensuite, il y a aussi le problème des populations. Donc ici, en Limousin, il y a un lieu qui est très fortement radioactif, très fortement, entre guillemets, si on veut. Je dis très fortement, surtout par rapport aux autres régions françaises, bien qu'il y ait d'autres régions françaises qui soient concernées par le problème radon. Alors, il y avait surtout une technique très courante pendant la grosse exploitation de l'uranium, c'est que des entreprises de béton allaient chercher des sables très très fins et, sur les mines, hein, sur les carreaux des mines, et les mélanger au béton. Et ensuite, la technique, la tradition, puisqu'il n'y avait aucune autorisation préfectorale à l'époque, c'était de mélanger ça au béton, et donc... on a construit des murs, des maisons, des trottoirs, enfin tout un tas de choses comme ça, des écoles évidemment, avec ce béton-là, ce qui fait que ça a augmenté la radioactivité ambiante, on va dire. Et puis maintenant, à travers différentes associations, il a été mis en évidence des problèmes de radioactivité dans les lieux publics et les habitations. Donc on en est resté là jusqu'à... très peu en fait, et puis depuis on va dire une décennie à peu près, est arrivée une directive européenne qui indiquait que bon, on pouvait se pencher un petit peu sur le problème radon. Alors déjà dans ces directives, ce qui est assez comique si on peut dire, mais triste surtout, c'est, alors je ne vais pas me plonger dans les chiffres, hein, mais je vais dire globalement. Donc cette directive européenne disait il y a un danger évident à faible dose. Mais comme il y a des pressions des États membres, on ne va pas s'occuper de ces doses à faible niveau. Bien qu'on vous dise, nous, dans nos directives, que c'est dangereux pour la santé publique. On va poser des niveaux beaucoup plus importants et dire, bon, c'est peut-être dangereux. Mais en l'occurrence, on s'aperçoit en regardant ces niveaux-là que c'est des niveaux très très forts et que ça ne correspond pas du tout à la référence de base qui est donnée dans la directive européenne de départ. Le risque qui était donné à ne pas dépasser sur un an pour les populations, c'était en désintégration radioactive dans un mètre cube, c'était 10 à 20 becquerels par mètre cube. C'est-à-dire 20 désintégrations radioactives dans un mètre cube en une seconde à ne pas dépasser pour les populations sur une année. Ce qui est très très faible. Et puis donc, après, sous pression des États membres, eh ben, ils ont posé comme niveau 200 becquerels, 400 becquerels par mètre cube. Alors 200 pour les nouvelles habitations, 400 pour les anciennes. Et puis, même beaucoup plus fort, puisqu'on disait que à 1000 becquerels, en fait, c'était pas, on pouvait en regarder, il y avait peut-être un danger, mais sans plus. Il y a tout un tas d'États membres qui ont traîné les pieds, et surtout la France. Donc la France a été en retard de nombreuses années, et pu déjà à l'époque recevoir des sanctions de la part de la communauté européenne, par exemple. Bon, il n'y a pas eu de sanctions. Est arrivé depuis peu un décret français qui a repris globalement la directive européenne. Mais en pire, je dirais, puisqu'elle ne s'occupe, si on peut dire, que d'un quart des problèmes. C'est-à-dire les trois quarts des problèmes sanitaires ne sont pas pris en compte. Et puis ensuite, les mesures ont été faites par hasard dans des lieux publics comme les écoles ou les mairies, avec aucun protocole scientifique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant qu'enseignant, j'ai vu dans des écoles des appareils de mesure qui étaient mis à 1 mètre du sol. Ensuite, j'en ai vu qui étaient mis à 3 mètres en haut d'une armoire, bon, etc. Donc ça a été fait n'importe comment. Et puis ensuite, il y a eu une interprétation. Alors l'interprétation est totalement erronée, puisque dans les commentaires, notamment des instituts officiels, on lit qu'à 200, 400 becquerels par mètre cube, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Éventuellement, on peut faire quelques aménagements à partir de 1000 becquerels par mètre cube. Or, il faut quand même dire qu'à 1000 becquerels par mètre cube, ça correspond au niveau reçu par les travailleurs du nucléaire, dans les mines par exemple. Voilà, et on pose ça sur les populations. Et puis surtout, après ces mesures qui ont été posées, il y en a eu quelques milliers en France, le gouvernement français a dit « Très bien, on a géré le problème, le radon, il n'y a plus de problème. » Voilà. Mais en plus, on a regardé que sur les lieux publics, c'est-à-dire que si vous, dans votre maison, vous avez un problème et que vous ne vous y penchez pas, vous ne savez pas que vous avez éventuellement un problème de radon dans la maison. Alors en plus, ça dépend de tout un tas de paramètres. Ça dépend de l'hygrométrie, ça dépend de la direction du vent, ça dépend des saisons, ça dépend si vous avez le chauffage ou pas dans votre maison. Parce que si vous avez le chauffage, vous augmentez les problèmes de radioactivité éventuels liés au radon. Si vous avez une maison qui a été construite avec du béton, comme je citais tout à l'heure, ça augmente évidemment la radioactivité. Le radon passe ensuite dans les tuyauteries et stagne dans les eaux. Donc lorsque vous prenez une douche, vous faites une libération de gaz radioactif radon et de ses descendants. Donc tous ces éléments-là ne sont pas pris en compte dans les habitations privées. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème ? On peut avoir évidemment des problèmes thyroïdiens, hein. Il n'y a pas que les retombées de Tchernobyl, puisque les descendants du radon passent dans le sang, donc se fixent aussi à un certain moment sur la thyroïde. Ça passe à travers tout le système digestif, donc on peut avoir des problèmes sur l'œsophage, sur l'estomac, sur les intestins, sur la vessie, sur la prostate, donc ça concerne sur le foie aussi. Tout ça dû à simplement, si on peut dire, à la radioactivité dans une habitation. On peut avoir des problèmes cardiaques aussi. Et alors, ce qui est très troublant, c'est que ces problèmes-là, on les retrouve à travers les études en Biélorussie, en Ukraine, avec les recherches de M. Bandajewski et Nesterenko. Donc Bandajewski, c'est un médecin, on va dire, spécialisé dans la biologie cellulaire, moléculaire. Et puis, M. Nesterenko, lui, est physicien. Donc, le biologiste a travaillé sur les effets sur le noyau cellulaire, les cellules, les effets en interne sur les enfants. Et puis, Nesterenko, lui, fait des mesures comme ça, avec un système sur un fauteuil, pour voir la radioactivité interne, hein, notamment chez les enfants. Eh bien, ensuite, on s'aperçoit sur les maladies concernées, notamment sur les plus faiblement touchés, entre guillemets, on retrouve des problèmes similaires ici et ailleurs en France par rapport au radon. En Limousin, en Bretagne, dans le centre France, dans la région de l'Odève, etc. Et même en région parisienne, puisqu'il y a des cas de radioactivité importante à cause du gaz radon, dans des écoles, comme il y a eu à Nogent, il y a aussi des problèmes radon. tout simplement parce qu'il y a eu une certaine radioactivité. C'est un problème qu'on a mis à l'écart, et comme je disais tout à l'heure, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Avec le décret qui est sorti en France, on ne s'occupe plus du problème. Et on fait croire aux populations qu'on s'en occupe, en fait. Donc voilà ce qui traîne dans les mines d'uranium, ici en Limousin et ailleurs. En plus de ces boues et de ces déchets, il y a eu un apport des déchets d'ailleurs, on va dire. C'est-à-dire, et là on a des témoignages, hein. Il y a des mineurs qui ont témoigné. On a des éléments, des ferrailles contaminées qui viennent de centrales nucléaires en France. On a aussi, mais ça on n'a pas pu le vérifier, des témoignages qui concernent des éléments radioactifs qui seraient revenus du Sahara après les essais atomiques, hein, français. On a aussi des éléments qui viennent de sites nucléaires militaires. On a par exemple des éléments radioactifs qui ont été inclus dans les galeries, par exemple de la région parisienne, lorsqu'il y avait l'usine du Boucher qui faisait une exploitation du minerai d'uranium. Mais il y a d'autres sites aussi qui sont venus déposer leur cochonnerie ici. Donc on a tous ces éléments-là qui sont désormais à traîner dans les sols et les eaux. Alors présentement, il y a eu une plainte au pénal déposée par une association qui s'appelle Sources et Rivières en Limousin, qui est notamment composée de spécialistes du droit international de l'environnement. La plainte a été prise en considération par le procureur de la République. Elle est en instruction auprès d'un juge d'instruction. La COGEMA est, depuis l'année dernière, depuis 2002, mise en examen, ce qui n'est quand même pas rien. Anne Lauvergeon, présidente de COGEMA, a été interrogée, mais a refusé globalement de répondre aux questions. Et pour l'instant, on en est là. Si ensuite, globalement, c'est classé, ben, les problèmes resteront entiers. Et puis de toute façon, personnellement, je ne pense pas qu'on s'occupera réellement du problème minier, puisque la réponse écrite de l'ANDRA, lorsque j'avais demandé au titre d'une association, que va-t-on faire de tout ce qui est dans les mines, la réponse était, c'est trop complexe pour sortir les éléments. Donc il n'y a rien à voir, circuler, restons en l'état. Alors les mesures qu'on a faites, on en a fait énormément en Limousin, donc avec un compteur Geiger qui mesurait en impulsion par minute. Donc on avait à la fois le sonore et l'affichage. Donc de nombreuses fois, on a été sur des lieux où le compteur était pratiquement saturé. Alors ce qu'on voit dans le film, à un moment, Uranium en Limousin, c'est une ancienne mine d'uranium avec une grille d'aération, quoi. C'est-à-dire là, dessous, il y a des galeries. Voilà. Alors il y a toute une histoire autour de ça. C'était qu'à l'époque où on allait dans les commissions locales d'information, on avait demandé qu'il y ait une étude, une recherche in situ, quoi. Qu'on aille voir ce qu'il y a dans le sol, qu'on aille chercher dans les galeries. Et on avait indiqué quand même que d'après les mesures également faite dans le labo CRIRAD sur les végétaux, on s'était aperçu qu'il y avait des éléments radioactifs, des descendants radioactifs de la chaîne d'uranium qui montraient qu'il y avait une forte radioactivité et que ce qui devait probablement être à l'intérieur de ces galeries ne provenait pas d'exploitation d'uranium. Donc à partir du moment où on avait demandé qu'il y ait une étude de fait, le préfet de l'époque avait répondu « puisque vous considérez que c'est dangereux, on va tout reboucher, on va tout cacher ». Ce qui avait été fait, quoi. Donc ils ont caché en surface, et puis de toute façon, les éléments sont toujours au fond. Hein. Bon, voilà. Mais il y a tout un tas d'endroits comme ça, encore actuellement, si on va se balader avec un compteur Geiger, on s'aperçoit qu'il y a une radioactivité qui ne correspond pas à une radioactivité ambiante. Alors ce que je reprocherais, je vais dire globalement sur le plan français, c'est que ça n'intéresse pas les associations, on va dire, qui se disent antinucléaires. Il est vrai qu'à une époque, le réseau pour une sortie nucléaire m'avait demandé de faire un article, par exemple, dans ces documents. Mais depuis, ça c'est resté comme ça. Je critiquerai aussi très fortement Greenpeace, avec qui j'ai eu des discussions avec Jean-Luc Thierry ou d'autres, puisque c'est quand même un énorme dossier. Greenpeace ne s'est jamais vraiment intéressé au dossier, au problème des mines, aux déchets des mines, et surtout au problème sanitaire qui en est lié. Je dirais la même chose aussi par rapport au radon. Ça n'intéresse personne, à part, on va dire, la CRIRAD, à part le groupement scientifique pour l'information sur l'énergie nucléaire, le GSIUN. Alors, sujet très important, c'est l'oubli des sites. Actuellement, déjà, ce qui est assez rigolo, si on peut dire, c'est que la COGEMA, on va dire il y a 5-6 ans, avait organisé des réunions avec les anciens ouvriers, anciens mineurs, pour qu'ils puissent éventuellement citer des lieux dont ils pourraient se souvenir pour resituer des éléments radioactifs. Donc, ce qui veut dire que déjà, qu'au bout de 2 décennies, par exemple, l'industriel oublie des sites et oublie ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qui va se passer au bout de plusieurs centaines d'années ? Déjà, quelques centaines d'années. Hein. Et même, on peut dire plus, d'une manière plus radicale, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce qui se passe maintenant, c'est que il y a des communes qui ont racheté, voire qui ont reçu donné par COGEMA, ou qui ont racheté donc pour un franc symbolique, des lieux, d'anciens sites miniers. Et ces communes ont fait des centres de tir, ou des centres de plongée, pour l'entraînement des pompiers, ou bon, des particuliers. Et puis, la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, la DRIR, a considéré, d'une manière tout à fait rapide et arbitraire, en se basant sur des mesures de COGEMA, que le site était, sanitairement parlant, correct. Donc c'est remis dans le domaine public, et si jamais il y a un problème sur ces lieux-là, la COGEMA va s'en laver les mains, quoi. C'est-à-dire que les problèmes, ils seront gérés par le propriétaire, c'est-à-dire la commune, par exemple, ou l'association concernée. Donc, on peut imaginer qu'au bout de 100, 200 ans, voire plus, il y ait des habitations qui soient reconstruites sur ces sites miniers. Alors là, ça va être déplorable, parce que là, sur le plan sanitaire, les gens vont s'en prendre plein la caisse, plein le corps, quoi. Et puis, on nous dit, par exemple, à Soulaine ou même dans le Cotentin, les sites de stockage des déchets faiblement toujours radioactif, on s'aperçoit que ça fuit déjà. Les conteneurs en béton ou en inox, par exemple, ou en verre. Moi, à la maison, par exemple, j'ai des écrits de syndicalistes qui ont été à ces réunions-là, et on entend l'ancien directeur de l'époque de la COGEMA, qui s'appelait M. Sirota, qui disait « Oui, nous, on sait très bien que le verre, ça ne tient pas à la distance. Avec la chaleur et la radioactivité, le verre se casse, se fend. Donc, il n'y a pas de tenue des produits radioactifs. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est dit en interne. On le lit dans les documents en interne du CEA. Donc, c'est quand même pas négligeable. Autre chose qu'on lit en interne, dans les documents du CEA, c'est qu'ils s'intéressent aux recherches faites par Bandajewski et Nesterenko en Biélorussie. L'ancienne OPRI, qui est maintenant intégrée dans l'IRSN en France, font ce genre de recherches aussi. Dans des documents accessibles au public du CEA, on s'aperçoit, si on lit bien, qu'ils font des recherches sur les faibles doses. Et on s'aperçoit, par exemple, que il y a des mutations des génétiques qui apparaissent déjà à faible dose. Il y a des effets sur les acides aminés. Donc il y a tout un tas d'effets et ils écrivent même à faible dose. Alors ça, c'est en interne. Et en externe, pour la communication, ils disent les faibles doses, il n'y a pas d'effet sur le noyau cellulaire, sur la santé des populations. À 20 km de Limoges, par exemple, il y a un ancien laboratoire où il y a des fûts radioactifs qui sont enterrés, où pendant de longues années, COGEMA a fait des études sur les plants de tabac, sur les rats. Donc pour voir les effets avec des cofacteurs comme l'alcool, la fumée, etc. Bon, Kojima a fermé les portes, et ils ont fait un bouquin, ils ont vu les effets, même à faible dose. Et comme ça coûtait trop cher, le bébé a été refilé à la fac de sciences. Voilà. Le lieu a été remis à niveau. Et puis qu'est-ce qu'on entend de la part de ces universitaires qui travaillent à la fac de sciences et qui sont pneumologues, qui soignent des gens qui ont des cancers du poumon? Je pense par exemple au professeur Bono. Il dit officiellement, les faibles doses ont éventuellement un effet bénéfique sur la santé des populations. Ça, c'est ce qu'on appelle, à travers des écrits de l'Académie des sciences en France, l'hormésis. C'est-à-dire que, braves gens, vous avez besoin de faibles doses radioactives pour être en meilleure santé. Ce qui est complètement sidérant, parce que les chercheurs, on va dire, honnêtes en France et dans le monde entier, démontrent le contraire, y compris le CERAC, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc il y a une désinformation totale qui est faite auprès des populations, est terrible, notamment à travers différents organismes, à travers l'OPRI, l'IRSN, à travers l'Académie des sciences, à travers l'Académie de médecine. Et bien sûr, comme ces gens-là sont à la fois dans des conseils d'administration des industries et ont aussi des contrats et interviennent dans les administrations concernées comme au ministère de la Santé et sont les consultants des administrations, hein, je pense par exemple à M. Tubiana, qui aussi dans les organismes internationaux qui se prononcent sur la santé des populations sur plan international. Donc par là, je veux dire que tout est noyauté. Ce qui est beaucoup plus grave, et pour moi qui est très important, et qui est totalement oublié, y compris par les associations antinucléaires, donc par exemple le réseau pour une sortie nucléaire, et pour moi c'est sidérant qu'ils ne s'en occupent pas, c'est qu'il n'y ait pas une dénonciation très importante de fait par rapport à tout ça, puisque à la fois dans des documents internes, internationaux de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, à la fois dans des documents de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à la fois dans des documents internes à la France, par exemple la Commission nationale d'évaluation qui s'occupe de l'analyse des recherches de mise en place des laboratoires souterrains pour les stockages des futurs déchets hautement radioactifs. Dans les documents de l'Académie des sciences, eh bien, on lit la même chose. Et ça, c'est très grave, parce qu'on le lit en interne, mais aucune presse n'en parle. Alors, j'ouvre le guillemet à quelques mots près. Nous savons que les fondements sur lesquels repose la radioprotection internationale sont basés sur des faux. Mais nous ne savons pas par quoi les remplacer. Fermons les guillemets. Voilà, ça veut dire tout simplement que tous les scientifiques, à la fois en France et à l'étranger, dans les organismes officiels en France et internationaux, tous ces gens-là savent qu'il y a un effet dévastateur sur le noyau cellulaire, sur la santé des populations, y compris à faible dose. Et plus grave, dans ces mêmes documents, il est dit qu'ils savent que c'est faux depuis Hiroshima et Nagasaki. Il faut se souvenir qu'après l'explosion de ces deux bombes, tous les documents essentiels avaient été confisqués par les Américains, qui après ont travaillé conjointement avec les Japonais. Et lorsque des scientifiques américains et d'autres avaient posé des questions dans les années 70, où sont passés certains documents, les responsables de la radioprotection internationale qui travaillaient sur Hiroshima et Nagasaki ont répondu, on a perdu les documents. Je dirais que c'est suicidaire aussi, hein, puisqu'ils laissent mourir des gens, et ça continue toujours actuellement. Alors lorsqu'il y a des gens qui essaient de sortir un petit peu la tête, par exemple des gens aux États-Unis qui avaient fait des études sur des travailleurs du nucléaire, Nesterenko Bonajewski qui est en tôle pour 8 ans, qui a été mis en tôle sous pression de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors en général, on ferme leur laboratoire, on les met en prison comme Bonajewski, on arrête les crédits, et puis voilà, après, comme ça, tout continue de la même manière qu'avant. Mais il faudra bien qu'un jour ça sorte, puisque même en interne, ils reconnaissent que les carottes sont cuites. Alors ce qui est grave, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que si on touche au problème du radon, on est obligé de s'occuper des effets du radon sur la santé des populations. Si on s'occupe des déchets miniers, on est obligé de s'occuper de la santé des populations. Si on s'occupe des centrales nucléaires, on est obligé de s'occuper évidemment des travailleurs du nucléaire et évidemment des intermittents. On est obligé de s'occuper évidemment des anciens mineurs. On est obligé de s'occuper de tout ce qui est lié au nucléaire. Donc, il y a une chose qui aussi qu'on ne dit jamais, et surtout pas le ministère de la Santé, c'est que lorsqu'on parle de ces problèmes-là, ils disent, de toute façon, vous nous embêtez, vous nous dites qu'il y a des problèmes radon. Regardez les 6 000 morts par an, les 50 000 morts par an dus au tabac. Bon, alors ce qu'ils oublient de dire, y compris le professeur Bonneau, qui est pneumologue ici à Limoges, et bien d'autres, c'est que le plant de tabac, il pousse dans la terre. Bon, d'accord. Ensuite, lorsqu'on fume une cigarette, il y a des descendants radioactifs, des descendants directs parmi les 5000 constituants, il y a les descendants radioactifs du radon qui sont libérés. Il y a le polonium, le plomb et le bismuth. Voilà. Donc c'est des intervenants directs qui agissent sur la santé des fumeurs. Alors il y a eu des autopsies faites sur des fumeurs, sur leurs poumons, sur les bronches, etc. Alors globalement sur le corps, il y a une radioactivité évidemment négligeable lorsqu'on fume. Mais sur les autopsies des poumons, on s'est aperçu qu'il y avait des irradiations très importantes. Donc ça veut dire simplement que les descendants radioactifs, entre guillemets, à effet faible, ont une part très importante sur les 50 000 décès par an dus au tabac. Alors le dire officiellement et le reconnaître, de la part du ministère de la Santé par exemple, ça serait reconnaître l'effet des faibles doses radioactives sur la santé des populations. Et ça, jamais ça ne sera dit. Lorsqu'on entend, par exemple, on est pour une décision immédiate de sortie du nucléaire, alors bon, d'accord, je peux décider là, immédiatement, qu'on va sortir du nucléaire, mais on en sort dans combien de temps? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Donc, lorsqu'on voit les accidents génériques, comme on dit, qui se rajoutent, Dans toutes les centrales nucléaires, je ne parle que de la France en plus, hein, parce qu'on pourrait parler de la centrale à Cosloduy ou ailleurs. Bon, il y en a qui sont prêtes à péter, hein, qui sont de la même génération que la centrale de Tchernobyl. Mais restons en France. Donc il y a des problèmes génériques qui s'accumulent dans les centrales françaises. En interne, on lit dans des documents des syndicats, par exemple, que ça devient de plus en plus alarmant, que les patrons d'EDF projettent statistiquement un accident majeur, une catastrophe majeure dans une centrale française dans, ma foi, à l'échelle humaine, pas trop longtemps. Et puis, d'un autre côté, on a des associations qui disent, bon, on décide qu'on va sortir, mais on ne sait pas trop quand, ou on s'accorde un peu de temps. Pour moi, si vous voulez, c'est criminel de la part des associations, parce que ça veut dire qu'on accepte éventuellement, d'une manière déguisée, un accident majeur sur une centrale dans les décennies qui arrivent, quoi. Alors pour moi, il faudrait dire il faut une sortie immédiate du nucléaire. Bon, il y a quelques personnes en France, rares malheureusement, donc j'adhère à cette vision des choses, qui disent que plus on attendra, plus on va droit dans le mur et plus on arrivera à un accident vraiment majeur sur une centrale française et plus on va entrer dans un nouveau relancement du nucléaire en France. Lorsqu'on voit ce que préparent les industriels EDF, Cogema et l'administration en France et sur un plan international, on a quelques raisons d'être très inquiets. Alors je dirais que les associations qui réagissent comme ça font le jeu des industriels. Alors un dernier élément, c'est, parce que là pour moi c'est le summum, c'est le développement durable. Donc c'est utilisé par toutes les associations. Il y a même un ministère du développement durable et de l'écologie. Alors déjà, développement et durable, il y a un antagonisme, ça ne va pas ensemble, hein. Ensuite, on est sur un lieu qui est fini. Notre planète, elle va pas durer une éternité. Donc, si on se développe, on sous-entend développement économique. Donc ça va pas non plus. Alors le malheur pour moi, c'est que c'est repris par les associations. Il y a un ministère qui s'appelle comme ça, il s'appelle même ministère d'écologie. Pour moi, l'écologie, c'est pas un ministère, c'est une science. Donc là aussi, il y a une grosse erreur. Et puis dernière erreur, c'est que c'est utilisé à foison par tous les industriels du nucléaire. On voit même sur le site de Cogéma, nous, Cogéma, nous respectons un certain développement durable grâce au nucléaire. Alors là, on saute au plafond, quoi. D'une certaine manière, par ces éléments-là, certaines associations anti-nucléaires font le travail de Cogéma et des instituts, des organismes internationaux. Alors, si vous voulez, pour moi, il y a une chose qui est sidérante, c'est de lire, par exemple, dans des prospectus des associations, y compris du réseau pour une sortie nucléaire, et puis on entend ça dans nos réunions, de gens qui se disent anti-nucléaires, il y a une énorme erreur qui est faite. Bon, d'un côté, c'est bien d'isoler une maison, pas de problème, bon, on fait des économies d'énergie, mais d'un autre côté, c'est redoutable pour les gens qui ont des problèmes éventuels de radon, de radioactivité, puisque ça confine encore plus le problème. Alors l'ECRIRAD, je leur ai dit souvent de fois, évidemment, on ne va pas critiquer un des seuls laboratoires qui s'occupe un peu de, on va dire, plus indépendamment de la radioactivité en France. Hein. On peut leur tirer le chapeau pour ça. Ils font un énorme travail actuellement en rapport avec le laboratoire de Bandajewski. Puis ils s'occupent de bien d'autres sujets, mais parfois, personnellement, il y a des choses qui me déplaisent. Par exemple, je leur avais dit qu'ils ne s'occupaient pas assez fortement du problème radon. Leur réponse avait été qu'il fallait s'occuper des plus forts problèmes, là où il y avait plus de radioactivité. Bon, dans un sens, c'est bien, mais dans un autre, pour moi, ça sous-entend que les autres lieux radioactifs plus faibles, on ne s'en occuperait pas. Et pourtant, comme je disais auparavant, les niveaux de dangerosité sont définis à des niveaux très faibles. Donc je dirais, la CRIRAD met sous le coude aussi, elle aussi, des problèmes liés au radon, quoi. Hein. Et puis c'est vrai que ça, c'est énorme comme dossier, donc financièrement, ça coûterait très cher si on voulait vraiment s'en occuper. Alors quand on voit ce qui se passe au ministère de la Santé actuellement, qui répond aux questions d'association par rapport à l'amiante ou aux éthers de glycol et qui dit non, on ne fera pas de suivi épidémiologique parce que ça coûterait trop cher. Et puis aussi parce qu'il y a la deuxième partie, c'est que les éventuelles plaintes qui sont mises en place, c'est trop dangereux pour l'État et pour les technocrates et pour les responsabilités mises en évidence éventuellement. Donc il vaut mieux étouffer toutes ces affaires-là. Un élément qui me paraît important également, c'est que c'est la sectorisation, je dirais, des luttes antinucléaires. C'est-à-dire qu'on a des lieux avec des associations qui ne luttent qu'uniquement, je dirais, par rapport au non-établissement de laboratoires souterrains. Et puis c'est tout, je veux dire, ils s'occupent que de ça. On a d'autres lieux qui ne s'occupent, ou d'autres associations qui ne s'occupent que de l'empêchement éventuel de mise en place de nouveaux systèmes de centrales nucléaires. Et puis ça en reste là, voilà. Bon. Alors à mon avis, c'est une totale erreur qui est faite par toutes ces associations, parce que le problème doit être vu d'une manière globale. Le nucléaire ne peut pas être découpé en tranches. Si on prend un élément et qu'on oublie les autres, on se met obligatoirement face à des problèmes qui viendront des industriels ou des élus ou de l'administration. Ils trouveront toujours la faille pour vous dire que en fait vous aviez oublié d'autres éléments, etc. Voilà. Donc c'est une erreur à mon avis. Il faut voir le sujet du nucléaire globalement.